Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International est vrai.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principes Actifs. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour la première émission du mois de février. Et une émission consacrée pendant une heure, comme tous les mois, à l'actualité des droits humains, aux différentes campagnes d'Amnesty et à tout ce qui concerne la lutte et la promotion pour les droits humains. Et pour l'animer avec moi ce soir, il y a Claire-Lise.
Bonsoir.
Il y a Françoise.
Bonsoir.
Et il y a deux personnes qui ne sont encore jamais venues à l'antenne, qu'on est très heureux d'accueillir. Il y a Livia.
Bonsoir.
Et il y a Yakin.
Bonsoir.
Voilà. Donc, pas mal de choses encore ce soir au menu de cette heure sur l'antenne de Principes Actifs. Donc, on va vous parler de l'Arabie Saoudite. On va vous parler de la situation des migrants et des réfugiés aussi ici à Évreux. C'est Claire-Lise qui va vous en parler. On va vous parler aussi de burn-out des bénévoles. Alors, vous devez vous demander ce que c'est que le burn-out des bénévoles. Bah, restez à l'écoute, comme ça, vous le saurez dans quelques minutes. Et puis, plein d'informations, bien sûr. Aussi, nos informations locales, etc. Et pour commencer ce soir, on va changer un peu des habitudes. Plutôt que vous de parler d'un sujet un peu grave, comme on fait généralement, c'est Françoise qui va vous donner quelques bonnes nouvelles.
Voilà, je vais vous donner des bonnes nouvelles. En début d'émission, ça va vous faire du bien, et à nous aussi. Eh bien, voilà, en Arabie Saoudite... Le 1er novembre 2019, les autorités saoudiennes ont remis en liberté deux ressortissants du Qatar, Ali Nasser Ali Jahal et son fils, qui sont ensuite rentrés chez eux à Doha. Le 18 août 2019, leur famille avait perdu tout contact avec eux, depuis qu'ils s'étaient rendus en Arabie Saoudite voir des proches. Amnesty craignait qu'ils n'aient été victimes d'une disparition forcée et avait appelé le roi Salman à révéler le lieu où ils se trouvaient et à les libérer. Il n'était pas inculpé rapidement d'une infraction prévue par la loi, donc ce qui fut fait. Une autre bonne nouvelle de Chypre. Ahmed a enfin été autorisé à rentrer chez lui et à retrouver sa famille à Chypre le 28 septembre. Il était séparé de sa femme chypriote et de ses deux filles depuis presque 4 années, après avoir été condamné à tort en Hongrie. Les autorités chypriotes avaient reçu des milliers de lettres et de courriels de militants d'Amnesty. Ahmed et son épouse ont exprimé leur gratitude à l'égard de tous ceux qui les ont soutenus. En Éthiopie, l'enseignant d'université, Firwey Bekel, a été libéré le 19 novembre après avoir passé 3 mois en détention pour son rôle présumé dans la rédaction et la publication d'un livre intitulé « The Hijack Revolution ». L'homme, prisonnier d'opinion, n'aurait jamais dû être persécuté. Le chef de la Commission éthiopienne des droits humains lui avait rendu visite en prison, avait appelé à sa libération immédiate à la suite d'une action urgente. Voyez comme les actions urgentes sont importantes. On vous dit toujours, si vous souhaitez faire une action urgente, n'hésitez pas à nous mettre un petit mail sur amnesty.evreux@gmail.com.
Voilà. À deux, on va y arriver.
Je vous en enverrai. En Irak, le 13 novembre 2019, la militante et secouriste Sabah Madawi a été libérée et a pu rentrer chez elle. Elle avait disparu après avoir été enlevée par un groupe d'inconnus le 2 novembre. Sa famille a affirmé à Amnesty International que Sabah était en bonne santé, qu'elle n'avait pas subi de mauvais traitements durant sa captivité et qu'elle avait été enfermée dans une habitation privée. Selon des informations, ses ravisseurs, dont elle ne connaît pas l'identité, l'ont interrogée à plusieurs reprises sur ses activités place Tahrir, la place de Bagdad. Une autre information concernant Israël et les territoires occupés. Un défenseur des droits et chef bédouin du village d'Al-Ahakabi, dans le Negev, non reconnu par les autorités israéliennes, a bénéficié d'une libération anticipée le 22 juillet après avoir passé 7 mois en détention pour avoir exercé ses droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Après sa libération, il a remercié Amnesty et toutes les personnes qui ont agi en sa faveur. Je vous remercie tous beaucoup pour avoir défendu les droits de mon peuple et être intervenu pour la protection de nos terres. Pendant mon emprisonnement, j'ai ressenti et entendu votre soutien haut et fort, et cela a énormément compté pour moi. Je suis libre à présent, mais nous poursuivons notre combat. Notre village a été démoli au moins 150 fois. Les autorités israéliennes tentent non seulement de détruire nos bâtiments, mais aussi d'anéantir ma volonté de continuer de protéger mon territoire. Je peux en donner une autre, oui ?
Oui, oui, tout
à fait. Au Myanmar, un ancien enfant soldat a été libéré par anticipation le 6 septembre 2019, sans doute pour bonne conduite. Il avait été arrêté en août 2017 pour avoir donné une interview aux médias sur son enrôlement de force dans l'armée. Il avait été condamné à 2 ans et 6 mois. Amnesty continuera de suivre sa situation et réagira comme il convient en cas d'évolution. Et on remercie tous ceux qui ont agi pour lui aussi. J'en ai une autre en Tunisie, et puis je m'arrêterai là. Un tribunal a mis Maïssa Al-Kusala, 18 ans, hors de cause le 19 septembre 2019 pour toutes les accusations retenues contre elle. Elle risquait jusqu'à 4 ans d'emprisonnement. Avec son frère, 16 ans, ils avaient été arrêtés le 4 septembre 2019 pour avoir filmé un manifestant qui menaçait de s'immoler par le feu devant un poste de police. Ils avaient reçu le soutien de plusieurs organisations de défense des droits humains en Tunisie et à l'étranger, dont les membres se sont présentés au tribunal le jour de l'audience et ont brandi des messages et de soutien devant le palais de justice. Après sa libération, cette jeune femme a déclaré « Tout mon respect et toute mon affection pour avoir été à mes côtés. Je n'aurais jamais imaginé recevoir un tel soutien. » Bouleversée par la quantité de soutien qu'elle a reçu, cet incident l'a déterminée à poursuivre ses activités militantes en faveur d'un changement positif en Tunisie. Voilà.
Eh bien, ça montre, Françoise, tout ce que Françoise vient de vous expliquer, ça montre effectivement l'intérêt et l'importance de se mobiliser pour les droits humains, parce qu'on obtient quand même des choses importantes pour pas mal de gens que l'on défend. Donc voilà, ça commence comme ça, et puis après on essaye de faire changer ce qui se passe dans les pays, et ce que je vais vous dire là maintenant est un petit peu moins joyeux que ce que vous a dit Françoise, mais c'est un rapport qui vient d'être publié, là, qui est sur le site d'Amnesty, amnesty.fr, vous pouvez le trouver facilement, qui est sorti hier ou avant-hier, et qui fait le point sur la situation des droits humains en Arabie Saoudite, et effectivement, c'est pas difficile de comprendre que les droits humains en Arabie Saoudite, c'est pas vraiment au beau fixe. Donc voilà, je vais vous dire simplement le petit résumé qui présente ce rapport. Dans notre rapport, nous constatons les terribles conséquences des poursuites engagées devant ce tribunal. Bon, il s'agit d'un tribunal qui juge en fait les gens qui sont supposés conspirer contre l'État, en gros. Donc, engagés devant ce tribunal contre les défenseurs des droits humains, des écrivains, des économistes, des journalistes, des religieux, des réformistes et des militants politiques, ainsi que des personnes appartenant à la minorité chiite d'Arabie Saoudite. Dans de nombreux cas, ces personnes ont fait l'objet de procès qui manquaient cruellement d'équité et à l'issue desquels des peines lourdes, y compris la peine de mort, ont été prononcées. C'est le cas du défenseur Mohamed Al-Otaibi, membre fondateur de l'Union pour les droits humains, qui s'est vu infliger une peine de 14 ans de prison pour avoir essayé de créer une organisation indépendante de défense des droits humains. Il doit aujourd'hui répondre de nouvelles accusations pour avoir communiqué avec des organisations internationales et tenter de demander l'asile politique. Nous avons, donc c'est toujours Amnesty qui parle, nous avons examiné de nombreuses pièces judiciaires, déclarations du gouvernement et textes du droit national, et avons mené des entretiens avec des militants, avocats et personnes proches des dossiers recensés. Après avoir écrit aux autorités saoudiennes en décembre 2019, nous avons reçu une réponse de la Commission officielle des droits de l'homme qui résumait les lois et procédures pertinentes, mais qui n'abordait pas les affaires évoquées dans le rapport. Le gouvernement saoudien utilise le tribunal pénal spécial pour créer une fausse impression de légalité afin de masquer l'usage abusif qu'il fait de la loi de lutte contre le terrorisme dans le but de réduire ses détracteurs au silence. Chaque étape de la procédure judiciaire de ce tribunal est entachée de violations des droits humains. Privation de l'accès à un avocat, détention au secret ou encore déclaration de culpabilité prononcée uniquement sur la base de prétendus aveux extorqués sous la torture. au moment même où elles ont introduit une série de réformes positives en faveur des droits des femmes, les autorités d'Arabie, donc, ont instauré une répression intense contre les militantes qui se battaient depuis des années pour ces réformes. Le tribunal spécial a été créé en octobre 2018 pour juger les personnes accusées d'infractions liées au terrorisme. Depuis 2011, il est systématiquement utilisé pour poursuivre des personnes sur la base de chefs d'inculpation à la formulation vague qui mettent souvent sur le même plan des activités politiques pacifiques et des infractions à caractère terroriste. La loi de lutte contre le terrorisme, qui définit de manière excessivement générale et vague les termes terrorisme et infraction terroriste, contient des dispositions qui érigent en infraction l'expression pacifique d'opinion. Notre rapport recense le cas de 95 personnes, principalement des hommes qui ont été jugés, condamnés ou étaient dans l'attente de leur procès devant le tribunal spécial entre 2011 et 2019. Les procès d'au moins 11 personnes détenues pour avoir exercé pacifiquement leur liberté d'expression et d'association sont toujours en cours devant le tribunal. Environ 52 autres purgent aujourd'hui de longues peines de 5 à 30 ans de prison. Plusieurs chiites saoudiens, notamment des jeunes hommes jugés pour des crimes qu'ils auraient commis alors qu'ils avaient moins de 18 ans, risquaient d'être exécutés d'un moment à l'autre à l'issue de leur procès devant le tribunal pénal spécial. Au moins 28 Saoudiens appartenant à la minorité chiite ont été exécutés depuis 2016. La plupart ont été condamnés à mort par le tribunal pénal spécial uniquement sur la base d'aveux extorqués sous la torture. Bien voilà. Et après, effectivement, Amnesty International condamne bien évidemment ce qui se passe en Arabie Saoudite et appelle à lutter, à continuer la lutte pour qu'effectivement un état de droit puisse un jour apparaître en Arabie Saoudite. Et ça me fait toujours penser, quand on parle d'Arabie Saoudite, au comportement aussi des autorités françaises qui continuent à vendre, et Clarisse va vous en parler tout à l'heure, qui continuent à vendre des armes à l'Arabie Saoudite, dont on sait très bien qu'elles finissent par être utilisées dans des crimes de guerre au Yémen. Donc voilà, non seulement l'État français est très frileux pour condamner les atteintes aux droits humains en Arabie Saoudite, mais même il a un comportement tout à fait incohérent. Voilà. Eh bien, je crois que les nouvelles personnes qui étaient avec nous autour du micro avaient des choses à vous dire. Donc, Yakin et Livia avaient des choses à vous dire sur donc cette grande question. C'est quoi le burn-out des militants ?
Merci Didier. Dans notre première chronique, nous nous sommes donc penchés sur l'accueil des migrants par les bénévoles. En effet, après une traversée de l'enfer, n'ayons pas peur des mots, on peut espérer que les migrants soient tirés d'affaire. Eh bien non. Bien que l'État ait la charge d'accueillir les demandeurs d'asile sollicitant la protection de la France, il semblerait que ce ne soit pas leur priorité. Qu'en penses-tu, Yakin ?
Tout à fait, Livia. En 2018, l'État possédait un parc de 91 000 places à travers une multitude de structures. Sur la même année, le nombre de demandeurs d'asile s'élevait à 120 000. Tout le monde vient de comprendre qu'il existe un important écart entre les demandes d'asile et les places disponibles dans les centres d'accueil.
Du coup, Yakin, la question que nous nous sommes donc posée est où sont logés les 29 000 migrants qui ne disposent pas d'une place dans l'une des structures de l'État ?
On pourrait penser que c'est l'État qui comble ce manque. Une nouvelle fois, non. Ce sont des bénévoles qui les accueillent chez eux et aujourd'hui, ils saturent, ils n'en peuvent plus. En effet, certains en arrivent même au burn-out. Pensez-vous que ce soit acceptable ?
Bonne remarque, Yakin. Toutes ces questions nous ont amenés à nous pencher sur le degré de souffrance ressenti par les personnes qui hébergent des migrants. Dans un premier temps, nous vous parlerons de la fatigue psychologique des hébergeants, puis de leur recul nécessaire afin qu'ils assurent une action efficace. Et nous finirons sur l'équilibre entre les notions de don et de dette pour les personnes accueillies.
Maintenant que Livia a présenté le plan, commençons par la fatigue psychologique des hébergeants. On peut évoquer le fait que ce sont eux qui comblent le déficit des structures d'accueil des migrants, des personnes au grand cœur, qui prennent la relève en répondant à ses besoins de première nécessité. Déjà, accueillir chez soi une personne tierce, c'est remettre en cause son propre confort. Mais lorsque l'on héberge des personnes portant une histoire terrible, il faut avoir un moral de résistant.
En effet, Yakin, la majorité des hébergeants se trouvent dans une grande fatigue psychologique. Certains ne supportent plus les horreurs qu'ils entendent. Des récits de torture, d'humiliation, de viol, que sais-je encore.
C'est terrible, Livia. Et en plus d'accueillir gratuitement sous son propre toit ces âmes blessées, Sans s'en rendre compte, l'hébergeant enfile le costume de Bob l'éponge. Or, Bob n'est pas un super-héros, et on ne peut pas faire de miracle.
Malheureusement, l'hébergeant finit par ressentir toute la souffrance et la cruauté qu'a subi le migrant qui l'accompagne. Certains sont plus forts que d'autres et ils poursuivent le combat.
Certes, mais d'autres s'effondrent. Et c'est pour cette raison que nous parlons de burn-out des hébergeants. Alors, d'après toi, Livia, comment nous pouvons les aider ?
Vaste question, Yakin. Dans un premier temps, peut-être en leur donnant conscience qu'ils ont le droit de se plaindre et de se sentir fatigués. Puis, en leur permettant de vider leur sac lorsqu'ils en ressentent le besoin. Par exemple, sais-tu que dans la ville de Briançon, à quelques kilomètres de la frontière italienne, où des bénévoles voient arriver par la montagne 50 à 100 personnes par jour, des psychologues se mettent à la disposition de ces hébergeants. Bel exemple à suivre, non ?
Ceci dit, Livia, l'administration aide-t-elle ces hébergeants face à leur détresse ? Au contraire, elle les met parfois en péril en leur mettant des bâtons dans les roues. C'est-à-dire trouver un logement, une scolarisation, un travail est un vrai parcours du combattant.
Non seulement ça, Yakin, mais en plus, la répression des aidants et les condamnations pour délits de solidarité engendrent une angoisse supplémentaire. Je crois que tu vas donner un exemple un petit peu plus tard. Quel est cet état où il est illégal d'aider les autres ?
C'est pour ça que... Excusez-moi, j'ai perdu le fil en fait. C'est pour ça qu'il est important, Olivia, que les hébergeants admettent que leur rôle se limite à accueillir et non pas à soigner. Excusez-moi. Pour cela, il est nécessaire qu'ils prennent du recul pour rester efficaces. Théoriquement, l'accueil se résume à offrir un toit, à manger et du repos. Excusez-moi. Et il n'est pas forcément nécessaire de les materner. N'oublions pas que le trajet qu'ils ont dû accomplir pour en arriver là, il faut juste les regarder comme des égaux qui méritent d'être aidés.
Très juste. Garder une distance reste une nécessité. L'empathie ne doit pas devenir symbiose. Les aider à être indépendants est plus utile que les dorloter, sans doute. Rappelons-nous que pour prendre bien soin des autres, il faut avant tout prendre soin de soi. C'est pourquoi les bénévoles doivent pouvoir s'appuyer sur une aide extérieure.
Et c'est d'ailleurs dans ce cadre, Olivia, qu'à Marseille, deux psychologues ont constitué un groupe de parole, non seulement pour les migrants, mais aussi pour les accueillants. De nombreux hébergeants tombent facilement dans la culpabilité de minimiser leur mal, être par rapport à celui des migrants.
C'est bien pour cela, Yakin, que pour se préserver, il faut savoir respecter certaines règles, comme ne pas agir seul et se fixer des limites dès le départ, telles que la durée d'accueil ou encore le nombre de personnes à héberger.
Cela est d'autant plus compliqué que les migrants ont du mal à trouver une position par rapport à ce soutien. Certains vont se sentir redevables et d'autres peuvent estimer que c'est indu. Alors comment peuvent-ils se positionner entre cette notion de don et celle de la dette ?
Question très fondée, Yakin. D'un côté, certains migrants se sentent obligés de rendre la monnaie à leur accueillant en se comportant comme des serviteurs, comme par exemple faire le ménage ou encore faire les courses. A contrario, certains migrants, notamment des mineurs, qui sont venus en France pour être protégés et entre guillemets « sauvés », sont un peu frustrés par les solutions apportées et la longueur des procédures. Ils seraient donc tentés d'être plus exigeants par rapport à ce qui leur est apporté.
En résumé, Livia, la nation française n'est pas à la hauteur de ce que l'on pourrait attendre d'un état de droit. Est-ce normal que de simples citoyens doivent combler ce manque et qu'en plus, ils se voient gênés dans leur démarche de solidaire, subissant des dommages moraux tels qu'un burn-out ? Sommes-nous prêts à accepter une société dans laquelle il faut pallier cette carence de l'État et où la norme serait d'ignorer les personnes qui souffrent, c'est-à-dire les migrants, mais aussi les bénévoles ?
Nous pourrions profiter d'avoir un enfant ce soir avec nous pour avoir son avis. Et toi, Julien, du haut de tes 11 ans, qu'en penses-tu ? Tu serais prêt à accueillir une famille d'étrangers chez toi ?
Oui, bien sûr.
Ça ne te gênerait pas de partager tes jouets, ta chambre, tes repas familiaux, ta salle de bain ?
Non, pas du tout. Je logerais chez moi jusqu'à qu'ils trouvent un logement ou que leur pays soit plus en danger.
Merci bien. Nous avons terminé. Pour cette petite...
Merci et excusez-moi pour le petit bug.
Non, mais c'est pas grave et bravo pour cette première intervention à l'antenne à deux voix. C'était effectivement tout à fait remarquable et dynamique. Et ben après ces considérations, je souscris à quatre mains sur les carences de l'État par rapport aux personnes en situation de migration et par rapport aux réfugiés. Ça, on le répétera jamais assez. C'est de la responsabilité de l'État. Mais l'État ne...
On va en causer tout à l'heure.
Oui, on va en causer tout à l'heure, mais j'aime bien insister. Mais l'État ne remplit pas son rôle. Donc on va effectivement écouter quelques minutes de musique.
Another town,
tried hard to settle down for every job. So many men, so many men no one needs.
Don't give up, 'cause you have friends.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, groupe d'Evreux, pour la suite de son émission sur l'actualité et les campagnes d'Amnesty par rapport aux droits humains. On vient d'entendre une reprise d'un morceau qui s'appelle Don't Give Up. Traduction française, ça veut dire on n'abandonne pas, ça caractérise aussi Amnesty. Un morceau de Peter Gabriel à l'origine, et Peter Gabriel est quelqu'un qui s'est beaucoup engagé, qui a fait beaucoup de concerts en soutien à Amnesty. Voilà. Et je crois qu'après Peter Gabriel, c'est Claire Lys qui va vous parler d'un petit port en France.
Oui, donc je vais vous parler de... Bah, c'est pas très loin de chez nous, hein, c'est à Cherbourg. Donc, de ce qui s'est passé hier, mais ce qui s'est passé déjà depuis la semaine dernière. Donc, Amnesty avait appelé le mercredi 5 février à une mobilisation pour essayer d'éviter que un bateau nommé le Barry Humbu n'accoste à Cherbourg. Donc, la veille de son arrivée dans le port de Cherbourg, nous étions des dizaines pour dire non à l'avenue du Barry Humbu. Nous suspectons ce navire d'être venu charger, dans la plus grande discrétion, des armes françaises à destination de l'Arabie Saoudite, principal pays engagé dans le conflit yéménite. Mercredi 5 janvier 2020, des dizaines de militants et sympathisants d'Amnesty International, mais aussi d'associations et de syndicats, ont répondu à notre appel à mobilisation contre l'avenue du Barry Humbu en France. Ce bateau transporte déjà du matériel militaire canadien et nous le suspectons donc de venir chercher du matériel de guerre français à destination de l'Arabie Saoudite. Il existe donc un risque majeur que ce matériel militaire soit utilisé pour alimenter le conflit au Yémen qui a déjà fait des dizaines de milliers de victimes civiles. Ceci est contraire aux engagements internationaux pris par la France. En mai 2019, ce bâtiment saoudien avait déjà tenté un accostage dans le port du Havre et grâce à une mobilisation massive, il avait finalement quitté la rade sans y avoir accosté et surtout sans son chargement. Malheureusement, là, malgré la mobilisation de la société civile, le Barry Humbu a bien récupéré son chargement à Cherbourg hier, puis il est reparti. D'un port à un autre, il continue son tour mortifère. Malgré notre mobilisation et celle des syndicats, d'autres ONG, ainsi que de quelques élus, le navire saoudien, donc Barry Humbu, a finalement bien fait escale dans le port civil de Cherbourg, donc le jeudi 6 février 2020, en fin d'après-midi, et il est reparti donc depuis. Donc dans la plus grande discrétion et en catimini, dans la nuit du 6 au 7 février, le navire a procédé à son chargement, que nous suspectons donc d'être du matériel militaire. Et puis, il a repris la mer pour une escale imprévue au port de Bilbao, en Espagne. L'exemple du Barry Humbu est emblématique. En laissant accoster ce navire de la honte dans le port de Cherbourg, la France a fait délibérément le choix de ne pas respecter ses engagements internationaux. Il y a en effet un risque extrêmement fort que ce bateau soit venu charger donc des équipements militaires français à destination de l'Arabie Saoudite. Équipements qui pourraient être utilisés pour commettre encore de terribles crimes de guerre dans le conflit en cours au Yémen. De plus, selon les déclarations d'un agent belge de la compagnie, le Barry Humbu était bien chargé d'armes. Le simple fait de le laisser transiter ce navire dans un port français est contraire au droit international. Donc il y a des vies humaines qui dépendent de l'acheminement ou pas de ce navire. Il y a quelques jours, les autorités belges, sous la pression de la société civile, refusaient pour ces mêmes raisons de laisser le Barry Humbu accoster dans le port d'Anvers. La France doit enfin prendre ses responsabilités et exercer un contrôle efficient de ses exportations d'armes dans la transparence et le respect du débat démocratique. Nos différentes sections se mobilisent et continueront de se mobiliser pour stopper ces navires de la honte, afin qu'aucune arme européenne n'alimente le conflit meurtrier au Yémen. Qu'attend donc la France pour enfin respecter le droit international? Et je vous invite donc à signer la pétition qui est sur le site d'Amnesty Aujourd'hui, on est à plus de 52 739 soutiens. Mais, donc, je vous invite à la signer et je vais vous lire la pétition. Donc, Monsieur le Président de la République, Manu, la transparence en matière de commerce des armes est un enjeu majeur pour en assurer son contrôle. Ce principe est d'ailleurs un des objectifs essentiels du traité sur le commerce des armes, ratifié par la France en 2014. Elle permet de s'assurer que les États parties appliquent bien le traité sur le commerce des armes et d'évaluer sa mise en œuvre. Vous aviez pris l'engagement, Monsieur Macron, lors de la campagne à l'élection présidentielle de 2017, de mettre en conformité les exportations françaises d'armes, de sécurité et d'équipements connexes avec le traité sur le commerce des armes. Depuis, vous-même, ainsi que votre gouvernement, déclarez régulièrement et publiquement que vous respectez les engagements internationaux de la France en matière de vente d'armes. Pourtant, dans la réalité, le manque de transparence qui les entoure empêche de s'en assurer. Ainsi, la présentation par le ministère des Armées d'un rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armement souffre de trop graves lacunes pour que les élus puissent réellement exercer leur contrôle démocratique. Au-delà, c'est l'information sur les processus d'autorisation des ventes d'armes qui fait cruellement défaut, empêchant toute forme de contrôle. Les récents transferts d'armes de la France vers l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, en dépit de leur engagement dans le conflit au Yémen, et les révélations faites par le média d'investigation Disclose, confirmant le déploiement de ces armes au Yémen, viennent appuyer les propres constatations des ONG et des Nations Unies. Ils sont une parfaite illustration des graves manquements de notre pays au regard du traité de commerce sur les armes. Le principe de transparence est également indispensable pour que la société civile ait un droit au regard et puisse évaluer si la France respecte ou non ses obligations internationales. Monsieur le Président Macron, je me permets donc de vous rappeler les obligations qui sont les vôtres afin d'éviter que les armes françaises ne soient utilisées contre des populations ou des biens civils en violation du droit international. Je vous demande de veiller à la mise en œuvre d'un contrôle effectif et renforcé sur tous les transferts d'armes et de veiller à améliorer l'exercice de transparence du ministère des Armées sur ces questions. Il en va de la crédibilité de la France et de la vôtre quant à vos engagements internationaux et au-delà de la vie de populations civiles. Je vous prie de recevoir, Monsieur le Président, l'expression de ma haute considération. Donc ça, c'est la pétition qui est en ligne sur le site d'Amnesty et que je vous invite à signer massivement. Merci.
Oui, et on a la campagne donc effectivement qui s'appelle « Silence en armes » qui durera au moins jusqu'à la fin de l'année par rapport à tous ces sujets. Voilà, et je crois qu'il y avait à nouveau nos deux amis, Yakine et Livia, qui avaient quelques autres infos à nous donner.
Oui, effectivement, vous avez parlé des bonnes nouvelles au début de l'émission, mais malheureusement, il y a une mauvaise nouvelle. Une militante de RESF, Réseau Éducation Sans Frontières du Vaucluse, elle a été condamnée en appel pour avoir scolarisé un jeune migrant isolé. On lui reproche d'avoir aidé ce mineur à s'inscrire à l'école. Le conseil départemental qui est en charge des mineurs isolés dénonce cette démarche en portant plainte. Et du coup, elle a dû s'acquitter d'une amende de 500 euros alors qu'elle a été relaxée en première instance. Et par conséquent, je tenais à souhaiter bon courage à cette personne, Chantal Raffanel, afin qu'elle continue son combat et qu'elle ne baisse pas les bras.
Oui, surtout, sauf erreur de ma part, mais je ne crois pas me tromper, les mineurs isolés doivent être automatiquement pris en charge par l'État et donc et scolarisés. Donc voilà, il y a encore là aussi un abus de pouvoir, on pourrait voilà. dire. Surtout, on peut dire.
Voilà, surtout relaxé en première instance et condamné en appel. Donc, on peut se poser des questions sur, effectivement, le rôle qu'on doit avoir et que l'État doit avoir vis-à-vis de ces migrants mineurs. Voilà.
Et Livia ?
Écoutez, je voudrais faire un petit point sur ce qui se passe actuellement au cinéma ou dans les séries et qui est en lien avec les sujets évoqués.
Oui.
Je voudrais notamment vous parler d'une série qui est très bien, qui est sur TV Arte jusqu'au 28 février, qui s'appelle Escale Fatale, donc un thriller qui se passe en Irlande, dans le milieu des migrants. et donc qui est très bien et qui nous permet également de voir les horreurs qu'ils subissent même une fois arrivés. Je voudrais également vous parler d'un film qui va sortir le 12 février, donc éminemment sous peu, Un divan à Tunis, de Manele Labidi, voilà, qui parle d'une psychanalyste, de 35 ans, Salma, qui quitte un cabinet cossu à Paris pour installer son divan dans la, dans la banlieue populaire de Tunis. Donc, voilà, hein, comme le dit Manele Labidi, la révolution a rendu le pays tout d'un coup bavard après des décennies de dictature. Et donc, tout un tas de patients truculents vont défiler sur le divan de cette personne, de cette psychologue. Donc voilà, ça peut être agréable de voir cette comédie pétillante, pleine de tendresse, mais qui aborde aussi de réels problèmes.
D'accord. Et tu peux nous rappeler le titre du film ?
Oui, tout à fait. Un divan à Tunis.
Ok. Et ça sort donc le 12.
Le 12
Très bientôt.
Février. Voilà.
En espérant qu'il passe à Évreux.
Tout à fait.
On n'est pas loin de Paris ni de Rouen, donc ça devrait aller.
Oui, aussi. On peut toujours aller le voir ailleurs, c'est sûr. Mais enfin, bon, c'est plus pratique pour les gens qui ne veulent pas trop se déplacer quand ils passent au cinéma ici.
C'est vrai.
Et je crois que Claire-Lise, on parlait justement tout à l'heure de migrants et de conditions d'hébergement. Je crois qu'elle avait quelques informations à nous donner.
Oui, attends, parce que je viens de perdre mon lien.
T'as perdu ton lien?
Oui, parce qu'en fait, je vais dire quelque chose. En fait, on m'a envoyé un lien. Et donc, c'est quelque chose, un petit peu un droit de réponse, puisque il y a quelques semaines, j'ai participé à une émission d'Amnesty. Je prends souvent la parole, donc je suis membre d'Amnesty, mais souvent, je prends la parole aussi au nom du CFED Asti d'Évreux, dont je suis bénévole. Et je fais partie aussi du collectif Migrants d'Évreux qui rassemble RESF 27, le CFED Asti, la Ligue des droits de l'homme, Amnesty et quelques autres associations, les Restos du Cœur. Enfin, on est 9 associations à être reçues régulièrement, enfin, une ou deux fois par an, par le préfet de l'Eure. Et quand on parle de burn-out, c'est vrai qu'on est très, 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 très sollicité par beaucoup de situations très difficiles des personnes qui sont soit migrantes en situation de demande d'asile, soit déboutées de l'asile et soit en situation régulière, puisque une fois qu'ils sont déboutés de l'asile, ils ne repartent pas, ils restent. Et parfois, il y a des gens qui sont depuis des années en situation irrégulière à Évreux et dans des situations dramatiques. Quand il n'y a pas de renouvellement de titre de séjour, je l'ai déjà dit, des fois, ils perdent leur logement, ils perdent leur travail, ils perdent tous leurs droits et ils se retrouvent parfois à la rue et en difficulté. En plus, ils ont des obligations à quitter le territoire français. Ils ne partent pas, ils restent. Bon, voilà, on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et donc, le rôle aussi des militants du collectif Migrants, effectivement, c'est de dénoncer les manques de l'État. Alors, quand on dénonce les manques de l'État, effectivement, et j'ai dit, alors je ne sais plus, ça devait être au mois de novembre, hein, à une émission du mois de novembre, que des personnes qui étaient logées à la Mala, donc la Mala, c'est la mise à l'abri, c'est quand ils n'ont pas d'hébergement, c'est un devoir de l'État de mettre à l'abri les personnes le soir. Et donc, c'est sur Évreux, il y a une Mala qui est gérée par une association et où les personnes appellent le 115 et sont mises à l'abri le soir. Donc, il n'y a pas toujours des places pour tout le monde, mais en principe, ils essayent de faire le maximum pour accueillir ces personnes, et c'est mieux que rien. Et jamais, en aucun cas, je n'ai critiqué l'association qui gère la Mala. J'ai simplement dit que c'était compliqué pour les personnes qui s'y retrouvaient, puisque ce sont des grandes pièces avec plusieurs lits, je ne sais plus, j'ai dû dire 10 à 12 lits, puisque j'ai vu des petites vidéos que certains migrants m'ont montrées. C'était propre, il y avait des lits, des couvertures, etc. J'ai simplement dit que c'était compliqué quand ils se retrouvaient à 10, 12 dans une pièce, quand il y a des familles avec des enfants qui toussent, qui sont malades, que voilà, que c'est compliqué, c'est pas comme quand on est dans une chambre à soi. Et donc, à la Mala, ils sont accueillis à 18h le soir, et le lendemain, vers 8 heures, il faut sortir, puisque c'est une structure qui est faite qu'en urgence et ils ne sont pas en permanence. Ce n'est pas un logement comme quand ils sont logés, soit à l'hôtel, soit dans un foyer. Et donc, à cette émission au mois de novembre, j'ai mis en cause le fait que quand ils sortent de la Mala, ils ont des endroits où aller en semaine. Donc, entre autres, il y a Accueil Service qui est... du côté de Cora, là, enfin, la, je sais plus, l'avenue Foch. Et puis, il y a la passagère au féminin à la Madeleine. Et il y a beaucoup de femmes avec des enfants qui vont à la passagère au féminin. Et c'est un partenaire dont on parle souvent quand ils viennent nous voir. Moi, je suis souvent à la permanence du samedi au CFED. Les gens viennent de la passagère, passent au CFED, ils retournent. Et ce qu'ils nous disaient, c'est qu'effectivement, la passagère, elle est ouverte toute la semaine. Donc, elle prend le relais de la... Pardon ?
Pas le week-end, c'est ça ?
Mais attendez, elle prend le relais de la Mala, elle ouvre, hein, je ne sais plus si c'est 8h30 ou 9h, et elle referme en fin d'après-midi. Et donc après, les gens retournent à la Mala. En semaine, mais il y a quelque temps, j'ai dit que bah, le week-end, malheureusement, c'était ouvert le samedi matin, mais qu'il n'y avait pas de Mala ouverte le samedi après-midi, ni le dimanche. Donc ça a ému les personnes qui gèrent, puisqu'on a été entendus, c'est remonté, et c'est revenu vers nous en nous disant que c'était erroné. Alors, effectivement, ce que je ne savais pas au mois de novembre, c'est que le plan Grand Froid venait d'ouvrir. Alors, je dis quand même que les bénévoles de la Maraude et que les gens qui allaient régulièrement à la passagère étaient eux-mêmes pas au courant que la passagère était ouverte le dimanche depuis le 1er novembre. Donc, parce que c'est le plan Grand Froid... Donc, qui est activé depuis le 1er novembre. Et donc, il y a un diaporama. Et je vais vous redire exactement dans le diaporama, à quelle heure est ouverte la Mala. Parce que, bon, c'est ouvert effectivement pendant le plan Grand Froid, donc du 1er novembre et je pense jusqu'à fin mars, peut-être jusqu'au 15 avril. Là, il y a le plan Grand Froid. Et donc, il ne veut pas s'ouvrir. Donc, je vais le dire de mémoire parce que je l'ai lu. La passagère est effectivement ouverte le dimanche. Donc, dans le document qu'on m'a envoyé avec un lien, c'est ouvert de 9h jusqu'à 14h. Donc, ça ferme à 14h. Donc, si c'est fermé, ce n'est pas ouvert après 14h. Je veux simplement dire, parce que quelqu'un m'avait dit aussi que c'était ouvert toute la journée. Donc non, la passagère, elle ouvre pendant les grands froids, donc le samedi et le dimanche, de 9h à 14h. Reste, et moi en tant que militante, reste le sort des personnes entre 14h et jusqu'à la réouverture de la Mala. Effectivement, donc ils nous disent, parce que maintenant quand je les vois arriver, je les enregistre. Donc, j'ai plein de petits enregistrements de personnes qui me disent « Bah oui, le samedi, on va à Carrefour. » Voilà, ils vont dans la zone commerciale pour être au chaud. Quand la passagère... Et c'est normal hein, qu'elle ferme à 14h parce qu'il n'y a peut-être pas de personnel pour toute la journée. Mais qu'on ne dise pas que c'est ouvert toute la journée. C'est nous, notre cri d'alerte, c'est pour essayer d'obtenir des aides de l'État et qu'il y ait un endroit chaud toute l'année déjà, parce que là, c'est que pendant le plan grand froid, et tout le week-end. Donc le dimanche, Carrefour est fermé, donc le dimanche, eh ben, les familles, elles font le tour du quartier. Et moi, là, samedi dernier, j'ai vu Tété, qui est maman de 5 enfants, dont le plus jeune a 1 an et demi, eh ben, après 14 heures, ils attendaient que la Mala rouvre à 18 heures. Voilà, je ne veux pas dire de choses erronées. Ce qui existe, c'est très bien, c'est géré par des associations et je ne vais pas critiquer comment c'est géré par les associations. Simplement, nous, les militants, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un accueil plus large parce qu'il y a quand même des moments où ces familles se retrouvent dehors. Voilà.
Je crois que tu as tout à fait raison d'insister sur le fait que...
Et la parole des militants, on ne va pas la museler. Enfin, et ça ne remet pas en cause le rôle des travailleurs sociaux d'Évreux, de ces associations pour qui on a du respect. Ça vient en complément. C'est le rôle des militants de demander que l'État prenne ses responsabilités. Que ce soit l'État au niveau du préfet, que ce soit l'État au niveau de la commune. Parce que monsieur le maire dit « c'est pas à moi de m'occuper des migrants, c'est au préfet ». Moi, je dis que c'est à toutes les communautés.
Les instances locales,
qu'elles soient communales, qu'elles soient départementales ou qu'elles soient de l'État, c'est une responsabilité commune d'accueillir des êtres humains de façon digne. Voilà.
Tout à fait.
Et ça ne remet pas du tout en cause le travail des associations locales qui gèrent la Mala ou les autres lieux.
Il me semble qu'on avait eu un problème, Didier, avec la dame qu'on avait qui venait de Vernon.
Qui venait de Vernon, je pense.
Avec qui avait un enfant de 1 an et non de 4 mois et un autre de 2 ans qui s'est retrouvé dans la rue et on savait pas quoi faire.
Oui,
de cette
oui, tout à fait exact. Tout à fait exact.
Et le lundi matin.
Oui, on avait été alerté par l'ADEME de Vernon, effectivement, voilà. L'association des migrants de Vernon. Oui,
donc du coup, on tout s'est fait, mobilisé pour lui offrir des chambres d'hôtel. Bon, il y a eu un autre.
Donc, finalement, il y a un hébergement qui, voilà. qui a été trouvé, encore une fois, par des bénévoles aussi, comme on voilà. disait tout à l'heure.
Donc, souvent, on fait appel à un toit sous la main aussi, hein, et c'est des bénévoles qui trouvent des logements chez des habitants, et c'est une association qui finance, en fait. On paye certains habitants pour qu'ils acceptent de prendre des gens chez eux. Voilà. Mais c'est une solution qui ne peut pas durer éternellement.
Mais comme d'offrir les chambres d'hôtel à nos propres frais, on a eu, enfin la solution a été, l'une des premières solutions a été celle-ci, donc d'offrir des nuits d'hôtel, des nuitées. Mais effectivement, après le problème a été le samedi et le dimanche, à savoir ce que cette dame devait faire de ses enfants alors qu'il faisait très très froid sur cette période de l'année.
Tout à fait. Et non, mais c'est important effectivement d'insister sur le fait qu'on ne remet pas en cause l'action des différents organismes et associations qui font de leur mieux pour essayer de trouver des solutions. Nous, on veut mettre le doigt sur justement ce qui n'est pas fait de la responsabilité de l'État et qui ne remplit pas son rôle. Donc voilà, c'est pas du tout pour incriminer ceux qui travaillent avec nous ou dans des sphères complémentaires de ce qu'on représente, mais c'est pour mettre le doigt devant les carences des responsabilités des instances officielles qui ne font pas ce qu'ils doivent faire. Il y a des femmes, des enfants et des hommes aussi qui sont dans des situations anormales parce qu'encore une fois, l'État ne remplit pas son rôle. On ne le dira jamais assez. Et c'est uniquement dans ce sens-là qu'on intervient. On va peut-être, parce qu'on a dépassé ce qu'on avait prévu au niveau de l'horaire, mais c'est pas grave, écouter un peu de musique.
Ce monde à la dérive, barré comme un bateau ivre, où sont passés les commandants de bord. Et d'abord, qu'on ait voté pour ou contre, c'est la course contre la montre, entre les plus faibles et les plus forts, plus d'accord. Viens, ô marraine, je t'emmène sur mon île, au trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. Les ponts s'écroulent, c'est la panique dans la foule. Chacun se bat pour sauver sa peau, sauf qui peut. Autour des canots de sauvetage, les rescapés du naufrage luttent à mort pour maintenir leur corps hors de l'eau. Viens, ô marraine, je t'emmène sur mon île. Là où l'amour nous unira à la vie, à la mort. Qu'on en crève, il faut poursuivre nos rêves jusqu'au bout sans regret ni remords. Et toujours,
le cœur armé de courage, s'arracher au grand naufrage des humains prisonniers de leur peur, de l'amour. Viens, ô ma reine, je t'emmène sur mon île, ô trésor, là où l'amour nous unira à la vie, à la mort.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'est Amnesty International, et on nous reste 5 bonnes minutes d'émission, pas plus, mais c'est suffisant pour nous donner nos infos locales et peut-être échanger par rapport à tout ce qui a été dit au niveau de l'émission, s'il nous reste quelques secondes. Donc nos infos locales, on en a 3 principalement. On vous rappelle qu'on vous attend tous et toutes le samedi 22 février à partir de 14h au Cube, et c'est gratuit. Comme disent les gens de la radio ici, qu'on connaît bien, quand c'est gratuit, c'est dans nos prix. Donc c'est gratuit. C'est une projection débat autour des problèmes des violences faites aux femmes. Et donc, il y a une projection d'un film qui s'appelle... Il n'y a pas de titre en français, ça n'a pas été traduit, mais le titre anglais, c'est « A Thousand Girls Like Me ». Et moi, je l'ai vu, le film. C'est un film très poignant sur l'histoire d'une Afghane dont les droits ont été violés puisqu'elle était victime d'inceste, mais qui a réussi à faire juger et condamner son père par rapport à ça. Et donc, ça explique, c'est un documentaire, mais qui explique très bien sa démarche, comment ça s'est passé, et effectivement aussi comment c'est toute la suite du procès de son père, qui en fait ne la met pas du tout en sécurité, mais on ne va pas tout vous raconter, venez voir le film. Et après, effectivement, il y aura un débat qui va être animé avec plusieurs personnes, dont Saïda Kasmi, qui connaît très bien la metteuse en scène et aussi la personne qu'on voit dans le film, et qui est elle-même distributrice, en fait, directrice de la société de distribution de ce film qui s'appelle Bluebird Distribution. Donc elle sera avec nous le 22. Voilà. Donc c'est à partir de 14h, c'est gratuit, c'est au Cube, et c'est organisé par Amnesty International avec l'aide de nos amis du Cube, bien sûr. Donc on ne le répétera jamais assez, soyez avec nous le 22. Après, on a une deuxième émission Fréquence Droits Humains, notre deuxième série d'émissions qu'on fait avec Principe Actif. Donc, une deuxième émission Fréquence Droits Humains qui sera consacrée à droits humains et agriculture. Et ça va se passer à Breteuil, à l'association du Parc. Et ce sera diffusé en direct sur l'antenne de Principe Actif le jeudi 27 de 18h à 19h30. Et on vous rappelle que ces émissions sont publiques. Donc, si vous avez envie de venir avec nous pour assister à l'émission, n'hésitez pas. C'est à l'association Le Parc. Je n'ai pas l'adresse en tête, mais c'est très facile à trouver à Breteuil. Et voilà, donc jeudi 27 de 18h à 19h30. Et puis, notre prochaine émission de radio ici, Amnesty, sur l'actualité des droits humains, c'est le mardi 25 en direct de 19h à 20h. Voilà. Et après, on aura une autre... Une présence avec le Tangram, ce sera un concert de Kerry James au mois de mars. Mais bon, on y sera présent, mais j'ose plus trop en parler à la radio parce qu'au niveau des places, c'est complet, complet, complet et très complet. Donc si vous n'avez pas pris votre place, malheureusement, pour l'instant, il n'y a plus trop de possibilités, sauf désistement de dernière minute. Voilà. Ben, je ne sais pas, j'ai envie de demander à Yakin et Livia, comme c'était leur grande première ce soir à la radio, quelle impression vous en... qu'est-ce que ça vous évoque, le fait de parler dans le poste, comme on disait quand j'étais petit, on parlait dans le poste. Ça vous inspire quelque chose, non?
Oui, c'était plutôt intéressant. Ce qui était surtout intéressant, j'ai trouvé, c'était de préparer avec Yakin notre article et donc de se poser des questions, de s'intéresser à des sujets graves, de se renseigner un petit peu plus.
La recherche, structurer le...
qu'on allait dire. Ce n'était pas forcément évident, mais en fait, finalement, on a pris le coup assez rapidement et puis on a apprécié notre collaboration et j'espère vivement qu'on aura l'occasion de
poursuivre.
De poursuivre, bah oui, tout à fait. Tout à fait. Non, mais pour une première, c'était très bien structuré. Et puis, j'ai oublié son prénom à notre
Julien.
Julien, voilà. Julien, qu'est-ce que ça te fait d'être pour la première fois à la radio ?
Je sais pas, j'aime bien.
T'aimes bien ?
En vrai, je pense en troisième, je prendrai stage à la radio.
Ah, c'est vrai.
C'est intéressant.
Il y a peut-être aussi les gens de l'antenne jeune du lycée Aristide Briand qui seront intéressés. On en discutera effectivement au niveau du groupe pour qu'ils viennent
absolument
participer.
Absolument, la représentante Anaïs Legrand m'a confirmé tout à l'heure qu'elle viendrait avec nous la prochaine fois. Et donc, du coup, on préparera une chronique ensemble.
D'accord. Et puis, il y aura peut-être une possibilité. Je parlais tout à l'heure des émissions Fréquences Droits Humains, notre deuxième initiative avec la radio. Ils sont toutes faites hors studio. Il y aura peut-être une possibilité pour, on l'avait déjà faite dans la première saison de cette série d'émissions, de faire une autre émission, peut-être en direct du lycée. Enfin, on en reparlera. Oui. Hein. On en reparlera. Ce sera intéressant, effectivement, de déplacer le studio là-bas pour un thème à définir ensemble.
Absolument.
Et voilà. Plus, c'est important de sensibiliser les élèves dès le plus jeune âge à s'intéresser à autrui et donc à participer. Ce genre d'action.
C'est même fondamental, effectivement. Nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire au niveau du groupe. Et là, on vient de faire... François, on avait parlé un petit peu, je crois, lors de la dernière émission ou celle d'avant, je ne sais plus. On vient de faire toute une série de ce qu'on appelle éducation aux droits humains sur deux thèmes différents avec des classes de 3e du Collège de l'Immaculée. Des enseignantes qui nous ont invités. Ça fait la 3e année qu'on y va. Les thèmes changent à chaque fois, mais c'est très intéressant. Et on a des remarques et des réactions des jeunes dans les classes qui sont tout à fait intéressantes. Et ça, c'est important parce qu'effectivement, les droits humains, c'est comme on dit, on prend conscience de leur importance quand on commence à les perdre. Donc, il ne faut jamais oublier que c'est jamais acquis et qu'il faut toujours se mobiliser par rapport à ça. Bien, on va rendre l'antenne... presque avec de l'avance pour une fois, à notre ami du laboratoire qui vient d'arriver, qu'on salue au passage. Et puis donc, on se retrouve ici en direct à la radio le 25 février pour l'émission Amnesty et le jeudi 27 pour la seconde émission du cycle Fréquence Droits Humains. Voilà. D'ici là, bonne soirée à tous.
Merci.
Et à toutes.
Au revoir.
Merci,
bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.